les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
À écouter successivement Jolivet, Messiaen, Xenakis, Boulez et Henri, Barraquet, Stockhausen et Kagel, de tous ces compositeurs reçus jusqu'ici par Brigitte et Jean Massin, nous nous prêtons à rêver en silence, si je puis dire, à la profondeur de Beethoven, profondeur de ce que j'appellerais volontiers l'amitié beethovenienne, amitié au sens qu'en France on donne plutôt en littérature. Beethoven année 200, 9e et avant-dernière émission qu'on pourrait intituler simplement « Ombre ». On verra dans un instant pourquoi. C'est qu'en effet, l'ombre portée de la grandeur de Beethoven ne sert qu'à faire aimer.
Nous revoici aujourd'hui avec André Boukourechliev. Je crois que nous n'avons pas besoin de lui demander s'il aime Beethoven, si Beethoven est encore vivant pour lui et ce que représente Beethoven dans son univers musical, car il a déjà eu plus d'une occasion de s'en expliquer avec nous au cours des émissions précédentes de ces différentes séries de Beethoven années 200. Nos auditeurs s'en souviennent certainement. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec André Boukourechliev pour parler d'une œuvre de lui, d'une œuvre de lui qu'il a écrite en hommage à Beethoven, « Ombre ».
André Boukourechliev, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle a été la genèse de « Ombre » et pourquoi vous avez choisi de vous exprimer uniquement par des cordes ?
Eh bien, la genèse de « Ombre », la voici. C'est une rencontre, si vous voulez, avec mon amour pour Beethoven, qui s'est d'abord exprimé dans un petit livre paru il y a bien des années, et de mon travail de compositeur, et bien sûr de l'année Beethoven. Ces trois facteurs ont fait que le festival Messidor de Toulouse, qui se consacrait à Beethoven, m'avait demandé de rendre hommage à Beethoven dans mon propre langage actuel.
C'est donc vous qui avez choisi les cordes ?
C'est moi qui ai choisi les cordes. J'avais le choix, d'ailleurs, de l'effectif. J'ai choisi l'orchestre à cordes de Toulouse, l'orchestre de chambre de Toulouse, dirigé par Louis Auriacombe, parce que c'est un orchestre de Toulouse et que l'œuvre était commandée par la ville de Toulouse. Mais aussi, je crois qu'il y avait une raison plus profonde. Je crois que les quatuors sont quand même ce qui va au plus profond d'une reconnaissance dans tous les sens de ce terme.
L'équateur de Beethoven.
L'équateur de Beethoven et l'équateur de Beethoven en tant que matière première pour une sorte de réécoute de Beethoven à travers mon propre langage.
Vous êtes donc parti d'équateur de Beethoven.
Je suis parti d'équateur de Beethoven, mais je précise tout de suite qu'il ne s'agissait pas pour moi d'en dérouler des échantillons à la manière d'un collage, mais de les intégrer au plus profond de mon expression personnelle, car je crois que c'est de cette façon-là qu'on peut rendre le meilleur hommage à un musicien. Ainsi, il y a une sorte de grande onde sonore. Mon œuvre est une sorte d'onde sonore qui se déroule extrêmement lentement, qui a ses aspérités à l'intérieur et ses creux et ses plissures. Et au sein de cette onde complexe sont insérés ou intégrés plutôt, pliés à elle, en quelque sorte, des éléments beethoveniens que je n'ai pas voulu du tout comme un jeu de citation, mais comme faisant partie intégrante d'une sorte d'unité musicale nouvelle.
Lorsque vous parliez de reconnaissance tout à l'heure, il faut donc l'entendre non pas comme la reconnaissance par laquelle on donne à reconnaître un texte bien connu, et qu'on a le plaisir de retrouver cité une fois de plus ou collé dans une œuvre, mais comme véritablement une opération de reconnaissance, au sens presque militaire du terme,
une exploration
de Beethoven à l'intérieur de vous-même.
Voilà, et puis encore une signification de reconnaissance, c'est être reconnaissant à quelqu'un. Et je crois que je dois beaucoup à Beethoven en tant que compositeur. Beethoven m'a appris énormément de choses.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette œuvre, au fond, est un peu comme le déroulement d'un rêve, qu'elle baignerait dans un certain univers onirique, et dans cet univers reviendraient ça et là des bribes de musique déjà entendues et peut-être même transformées?
Je crois que c'est cela, en fin de compte. C'est une sorte de rêve éveillé, si vous voulez. Et non seulement moi, mais les interprètes aussi, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, auront leur part de rêve, auront le droit de rêver leur Beethoven à l'intérieur de cette partition.
Et pouvez-vous encore préciser une chose? Est-ce que, avant même d'avoir écrit la partition, vous saviez de manière très précise sur quel fragment de quatuor vous alliez vous appuyer?
J'ai, au début, relu tous les quatuors très attentivement et j'ai pris les fragments, les éléments qui éveillaient en moi des résonances privilégiées, comme on dit en musique, ou en acoustique. Enfin, ici, il s'agit d'une acoustique plus profonde, peut-être. D'une audition intérieure, disons. Et c'est à partir donc, de ce rêve éveillé qu'est venue à moi l'idée ou la conscience, plutôt la prise de conscience de ce que j'ai appelé l'état mythique d'un thème. C'est-à-dire l'état d'un thème tel que nous le portons dans notre mémoire et qui n'est pas forcément textuel. Et peut-être plus il nous est cher, moins il est textuel. Je crois que nous déformons un thème beethovenien à notre image intérieure, c'est notre Beethoven qui parle dans notre mémoire. Ce n'est pas le Beethoven textuel de la partition. Et je donne champ à cette sorte de déformation de la mémoire des thèmes beethoveniens que je porte en moi. Et c'est ainsi que je les transcris, transformé. Pas toujours, d'ailleurs. Il y a à certains moments, des choses qui se rapprochent beaucoup d'un état textuel. C'est l'extrême limite, si vous voulez. Mais l'autre limite, c'est le thème presque méconnaissable, baignant dans le rêve, comme vous dites.
Mais au fond, transformé dans sa tonalité, dans son rythme, dans son étalement?
Dans toutes ses dimensions.
Dans sa ligne mélodique aussi, parfois.
Parfois dans sa ligne mélodique même, oui.
Ou inachevé, parfois.
Ou inachevé, ou s'estompant, se noyant, tournant court.
Ce qui est d'ailleurs un procédé très beethovenien.
En effet. On peut essayer, si vous voulez, de démonter un petit peu ce mécanisme.
C'est-à-dire, au fond, essayer de lire avec vous votre propre partition.
C'est un jeu dangereux, et une fois qu'on aura lu cette partition comme cela, analyser les reconnus, toujours la reconnaissance, n'est-ce pas, reconnus les thèmes, eh bien, je crois qu'il faut un peu oublier ce processus pour pouvoir écouter l'œuvre en tant qu'unité.
S'abandonner au courant du rêve.
Je crois.
Et de fait, c'est assez vite, après le début de Ombre, qu'on reconnaît tout à coup un thème assez typique des derniers quatuors de Beethoven.
La première ombre. C'est un des thèmes du mouvement lent du Quatuor opus 132.
Le 15e.
Ce chant de reconnaissance d'un convalescent dans le mode lydien.
Encore une fois, la reconnaissance.
Et c'est un des éléments du thème renversé, tel qu'il apparaît chez Beethoven après la première exposition. Et nous allons pouvoir le comparer du quatuor de Beethoven à ma partition. Dans le quatuor de Beethoven, il apparaît dans l'aigu, énoncé par le violon, et dans ma partition, il apparaît dans l'extrême grave, par le violoncelle à contrebasse. Et maintenant, voici la même cellule thématique telle qu'elle apparaît dans Ombre.
C'était donc pour vous une citation, un exemple tiré d'un des derniers quatuors de Beethoven. Mais pénétrons un peu plus avant dans Ombre et sans nous arrêter systématiquement à tous les exemples, parce qu'au fond, le but n'est pas de faire un relevé des citations que vous pouvez faire. Eh bien, il me semble pourtant avoir reconnu quelque chose qui n'appartenait pas au dernier des quatuors de Beethoven, mais au contraire au bloc de ses premiers quatuors.
Voilà, au sixième, c'est la Malinconia, mais sans la Malinconia. Ce sont ces deux mesures qui préparent l'entrée du thème de la Malinconia chez Beethoven, et je n'ai pris, quant à moi, que cette préparation, cette espèce de vide qui est plein de la Malinconia qui va venir, mais au moment où le thème de la Malinconia devrait venir, je fais tout à fait autre chose. Là, il y a une explosion violente dans la partition et comme si ce thème qui allait venir était détruit.
Comme s'il y avait un refus de la Malinconia.
Quelque chose comme ça.
Ceci était donc la citation du début de la Malinconia dans l'opus 18, numéro 6 de Beethoven. Et maintenant, chez Boukourechtchev. Ici, André Boukourechtchev, on a presque l'impression d'une agression. Je veux dire par là que notre mémoire a déjà le temps de s'habituer à la citation et on est agressé de ne point l'avoir se terminer.
Exactement.
Et c'est peut-être comme ça aussi que vous l'avez ressenti
c'est
vous-même.
C'est comme ça que je l'ai ressenti, oui, je crois. Plus loin, il y a un autre thème qui m'est particulièrement cher et qui est du grand quatuor en ut dièse.
Le 14e,
il est de la quatrième variation de l'Andante. Et c'est un thème qui semble, chez Beethoven, aimable, presque dansant. Moi, je l'ai toujours lu comme quelque chose qui recèle un élément tragique. Et là, c'est vraiment, pour moi, l'état mythique du thème chez moi, comme ça peut être chez tout un chacun. Et je transcris ma propre audition intérieure de ce thème sur un mode infiniment plus douloureux. Et je crois que c'est comme ça que je l'entends. Et là, il faut donner les deux exemples, l'exemple du quatuor et l'exemple de cette transcription personnelle, de cet état du thème, de ce rêve du thème, de cette existence autre du thème en moi.
Et maintenant, ce même fragment de thème repensé par, revécu par Boukourechtchev.
Je sais bien qu'en écrivant Ombre, vous n'aviez pas l'intention d'ouvrir un cours d'interprétation beethovenienne. Et pourtant, je dois dire que cet exemple me paraît absolument passionnant. Car je ne dirais pas que nous avons ici Beethoven tel qu'en lui-même, enfin, Boukourechliev le pense, mais incontestablement, il y a là une latence du thème beethovenien que nous voyons se dégager. Ce thème aimable, il avait réellement une potentialité tragique. Et c'est parce que vous l'avez revécu que nous en devenons davantage conscients et que peut-être nous en serons plus conscients désormais en réécoutant le 14e quatuor. Il me semble que c'est tout à fait un bon exemple de la manière dont la liberté peut être créatrice à l'égard d'un grand texte.
La liberté, oui. Et cette liberté arrive aussi dans la partition elle-même pour les interprètes.
Oui, parce que jusqu'ici, tout était écrit, enfin, tout c'était était une partition écrit, rigoureusement écrite.
Très précisée. Et brusquement, à la page, je ne sais pas laquelle, de la partition, les interprètes se trouvent en face d'un immense champ d'éléments musicaux qui leur sont tous disponibles et ils s'y dispersent librement. Et ces éléments sont tantôt des éléments de moi-même, des cellules, différentes, tantôt des citations de Beethoven, tantôt des cellules beethoveniennes à peine reconnaissables. Et là, ce sont les interprètes, librement, qui vont s'en emparer pour rêver leur Beethoven à partir de ce matériau qui leur est ouvert.
Au fond, ils ont déjà été un peu introduits par les pages précédentes dans un certain climat de rêve et libre à eux maintenant de continuer sur leur propre chemin.
Voilà, c'est eux qui tissent maintenant le rêve, leur rêve, un rêve, plusieurs rêves, 12 rêves.
12 rêves.
12 cordes.
Et chacun des instrumentistes a la même partition, c'est-à-dire la même page, à ce moment-là,
la
reproduite devant les yeux.
La même page, et ils s'écoutent en même temps, ensemble, si bien que ce n'est pas une chose gratuite qui se passe, mais vraiment un tissu tissé à plusieurs. Et on entend comment un thème se communique de l'un à l'autre, il y a comme une sorte de contamination.
Comme une onde.
Comme une onde, et le thème commence à circuler et à se superposer, à se déformer, un autre arrive, etc. Là, je vous ferai entendre donc un fragment de cette page ouverte.
Et c'est ainsi qu'ici, on a eu l'impression qu'il y avait un thème qui devenait presque obsessionnel, c'est-à-dire dont l'ensemble du groupe n'arrivait pas à se départir.
Exactement. Ça passait d'un violon à l'autre, d'un alto à l'autre. C'est le thème qui circulait obsessionnellement, c'est le mot. Et ensuite, ils se sont enfin dégagés de cette obsession pour quelqu'un a joué un fragment d'un motif de l'andante du troisième Razoumovsky.
Il y a tout de même dans votre partition, André Boukourechliev, des moments où on émerge d'une certaine fluidité du rêve et où brusquement les ombres se font plus précises. Et je veux dire que les thèmes se font presque textuellement reconnaissables.
Oui, parfois c'est délibéré. Et par exemple, dans un élément du quatuor opus 127, cela est absolument patent dans la partition.
Et je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire entendre préalablement le quatuor de Beethoven pour que le passage se reconnaisse dans votre partition.
Oui, et je l'ai même assorti, puisque j'ai ma partition devant les yeux, je l'ai assorti de l'indication que Beethoven met sur sa partition à lui, c'est-à-dire « dolce cantando ».
Et maintenant que nous avons fait tout ce beau travail de reconnaissance, ce serait presque le moment de dire, parce que je le crois au fond, que à la limite, peu importe à l'écoute de Ombre, de reconnaître ou de ne pas reconnaître les thèmes beethoveniens. Je veux dire en tout cas de les situer dans l'équateur et de leur donner leur référence. Au fond, il me semble que ce n'est pas ce que vous avez cherché. Vous avez cherché, me semble-t-il, et vous allez me dire si c'est vrai, à recréer davantage un certain climat.
C'est à vous de me le dire, et vous me le dites, et cela, mes chers, Brigitte Messin, c'est, je crois, cela que j'ai voulu en effet.
Et il y a une chose qui me frappe à l'écoute de Ombre, c'est que ce climat, bien qu'il soit chargé de violence de temps à autre, n'est pas agressif. J'ai l'impression que vous avez voulu garder, peut-être d'équateur de Beethoven, ou en revivant certains d'équateur de Beethoven d'une manière plus intime, c'est-à-dire en recréant à partir d'eux-mêmes, vous avez gardé une impression de, comment dire, de douceur d'équateur beethovenien qui n'exclut pas la violence, mais qui n'est jamais directement agressive.
C'est vrai, et je crois que cela va dans le sens de cette texture de rêve que j'ai voulu établir et qui était en moi.
Rêve qui, une nouvelle fois dans votre œuvre, va s'élargir à la dimension collective des instrumentistes, car c'est bien sur une page ouverte que vous entendez terminer Ombre.
En effet, c'est de nouveau une page ouverte, et c'est de nouveau un tissu de liberté à plusieurs, un tissu de rêve à plusieurs. Et là, on reconnaît une cellule d'un des quatuors de Beethoven, le septième, on la reconnaît très clairement, mais dans ma partition, elle se répète inlassablement, elle tourne autour d'elle-même, et c'est une sorte d'appel vers quelque chose qui ne vient pas, c'est une conclusion qui ne conclut pas. L'œuvre se termine dans cette sorte de
refus, en somme, d'imposer une solution définitive, un mot de la fin.
Peut-être. Je crois qu'il n'y a pas de mot de la fin.
Mais c'est sans doute parce que vous savez aussi que vous avez encore beaucoup à écouter et à apprendre et à recevoir des quatuors de Beethoven.
Et à interroger et à m'interroger.
Au début de cette émission, André Boukourechliev, vous parliez de mythe. Et je crois que c'est le mot sur lequel j'aimerais revenir pour conclure. Car il me semble que nous ne répéterons jamais assez. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de relever un catalogue des citations que vous avez faites, mais de dégager au-delà et par ses évocations un mythe qui n'est pas celui de tel ou tel passage, pas celui de telle ou telle œuvre de Beethoven, mais qui est le mythe du quatuor beethovenien en lui-même, le mythe du grand poète Beethoven rêvant, s'interrogeant, explorant dans tout l'univers de ses quatuors à cordes.
Et c'est l'univers le plus profond de Beethoven, celui des quatuors, c'est celui que j'ai choisi pour interroger.
Et il nous reste à vous remercier, André Boukourechtiev, d'avoir bien voulu vous prêter avec nous à ce petit jeu d'analyse sur votre œuvre et à inviter maintenant l'auditeur, après cette dissection qui n'était pas rébarbative, à l'audition de Ombre en entier. Et bien sûr, avec l'Orchestre de chambre de Toulouse, dirigé par Louis Auriacombe.
André Boucourechlieff, Ombre. C'était Beethoven année 200 par Brigitte et Jean Massin, 9e et avant-dernière émission, diffusée la première fois le 1er avril 1971.